Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 149e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, des jeux vidéo, des apps, de la tech et de la culture. Une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Hello monsieur.
Alors c'était les grosses annonces AMD là il y a quelques minutes si j'ai bien compris.
Oui, nous avons décalé pour pouvoir les caser dedans un petit peu et effectivement ils ont fait ça bien. Donc on a eu le temps de... On n'est pas tellement décalé finalement puisque ils ont tout torché en 30 minutes, on va en parler tout à l'heure.
Et on va commencer par le gaming avec des news de Baldur's Gate 3.
Oui, parce qu'il était très attendu et du coup, on est un petit peu déçu parce que l'Early Access est dispo et vient de se faire triturer dans tous les sens par pas mal de gens, dont notre éminent Gotoz, les gens d'Ars Technica, etc., etc. Et le titre de la news consacrée au sujet par Ars Technica, c'est « J'ai joué 15 heures à Baldur's Gate 3 et je veux mes heures... faut qu'on me les rende, en fait. Hein. C'est un peu le « rendez l'argent » du temps, là. Et ils sont pas très contents. A priori, le moteur est fantastique, la réalisation est très belle, il n'y a pas de souci. Mais a priori, l'écriture et le fond du jeu est pour l'instant un peu décevant, avec pas mal de problèmes. Alors, je vous ai linké l'article d'Ars Technica sur le sujet, et si vous passez un petit peu de temps, vous allez voir que le monsieur n'est effectivement pas très content. Il y passe trois pages, et ça tape pas mal. A priori, il y a vraiment un souci sur l'écriture des persos. Ils ont été un petit peu trop loin. Les combats sont pas du tout satisfaisants, ce qui est un problème pour un jeu où c'est quand même le cœur du truc. Il y a plein de combats, justement, de rencontres avec des NPC ou des combats. Enfin, tu te demandes pourquoi ça te tombe dessus, t'avais rien demandé et ça a rien à foutre là. Donc, ça rejoint la problématique d'écriture, en fait, qui est vraiment un souci. Apparemment, tout le monde te déteste dans le jeu, ce qui est un peu chiant, en fait, à jouer. Les mecs de ton équipe te détestent, les factions te détestent. Il y a pas mal d'innocents qui passent un mauvais quart d'heure, a priori, dans le jeu aussi, ce qui est pas non plus super agréable à regarder. Et en plus, quand ils meurent pas sous vos yeux, c'est vous qui les butez. Donc, on rejoint
la joie de vivre.
Voilà, il y a des gens qui étaient pas contents en faisant le jeu, et a priori, au niveau de l'écriture, ça se sent un petit peu. Donc on va suivre ça. Alors attention, je rappelle que c'est l'early access.
Ouais.
Donc je ne sais pas ce qu'ils pourront modifier, ce qu'ils voudront modifier pour corriger le tir. En tout cas, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui sont assez tristes, même des gros fans de la série. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle.
Et puis on a enfin appris ce qu'il y avait à l'intérieur de la PS5. Hein.
Ouais, ils ont fait une vidéo extraordinaire de démontage de la PS5 fait par
unboxing.
Un ingénieur. Tu l'as vu ou pas?
Non.
Ah là là, c'est un japonais qui la démonte à la japonaise, hein, sur une table blanche chez Sony. C'est une vidéo officielle, hein, où vraiment on a un gars de chez Sony qui peut pas être plus strict dans le côté japonais, tu vois. C'est vraiment magnifique. On a l'impression qu'il démontre un sabre. Hein. Ils ont voulu faire un truc hyper esthétique.
C'est très cérémoniel, c'est ça?
Mais ouais, carrément. Je trouve que c'est assez ok, ça rigole pas. Et du coup, le mec il décroche pas un sourire pendant le démontage. On n'est pas sur la vidéo
Serious
américaine.
Business ici.
Ah ouais, on n'est pas sur une vidéo américaine. Genre, yeah, yo, comment ça va? Regarde, elle est trop cool. Non. Là, le mec il te démonte la console, genre, iFixit version pas drôle, quoi. C'est intéressant parce qu'on voit plusieurs trucs rigolos. Il y a un truc qui est un petit peu anecdotique, mais qui nous a fait marrer, nous, quand on a regardé la présentation cette semaine. C'est que il y a un pied, en fait, tu peux la mettre verticalement, la PS5, mais tu peux aussi la coucher, a priori. Mais quand tu démontes le pied, en fait, pour démonter la console, parce que je sais pas, pour la coucher, j'ai dit ça, mais pour l'Xbox, j'en suis sûr, pour la PS5, j'ai un doute là. Et la blague, c'est que quand tu démontes ce pied, t'as une petite vis que tu pourrais perdre. Donc, ils ont fait une petite trappe.
Ah, j'ai entendu parler de ça, oui.
Ils ont fait une trappe dans le pied pour pouvoir ranger la petite vis, pour être sûr de pas la paumer, parce que, bordel. Et puis, le petit cache qui va dessous, après, tu peux remettre le cache là où le pied, en fait, était démonté. C'est pour ça que je pense qu'en fait, tu peux la mettre à plat et que c'est prévu pour. Et comme ça, ce n'est pas moche sur le côté. L'autre truc hyper intéressant, c'est de voir à quel point la console se déclipse un peu de tous les côtés relativement facilement. Entre autres, pour accéder à la trappe SSD, pour rajouter de l'espace de stockage, ce qui sera important. important à mon avis, parce qu'elle n'en a pas énormément, et puis les jeux ne vont pas en maigrissant. Et on a un truc intéressant, c'est la taille du système de refroidissement, qui est assez hallucinant. En fait, c'est un énorme radiateur à l'intérieur, hein, si vous demandez ce qu'ils avaient foutu, parce que la carte mère, elle est pas si impressionnante que ça, mais le système de refroidissement, que ce soit le ventilo ou la taille du radiateur, c'est un truc de taré. Et puis, comme le bordel fait par AMD, donc le système on chip qu'il y a, qui regroupe la partie graphique, la partie processeur, etc., est assez violent, et donc ça chauffe un petit peu. Ils ont aussi développé un pad thermique qui est bien loin a priori de notre bonne vieille crème blanche à tartiner là, qu'on met sur nos CPU. N'en mettez pas trop, hein, soyez malins, il y a des tutos sur internet, hein, je le rappelle. Ce truc là ça a l'air d'être du métal liquide avec un alliage un peu spécifique, alors, qui devrait avoir une bonne tenue dans le temps. A priori ils y ont passé 2 ans, hein, donc ils ont un peu travaillé sur le sujet, tout ça pour avoir justement un système de refroidissement qui soit le plus efficace possible. Et de fait, je vous ai linké aussi une news qui regroupe plein de vidéos de ménestrels youtubeurs japonais qui sont regroupés dans des conditions évidemment complètement fliquées par Sony, hein, mais pour jouer pour la première fois à la console et tester la bestiole en live. Alors, ils n'ont pas pu voir l'interface de la nouvelle PlayStation, ils n'ont pas pu utiliser les fonctions de sharing, etc. Vraiment rien, c'était rien que du jeu. Vraiment, on vous montre les jeux, voilà, et puis vous allez pouvoir voir la console en fonctionnement. Et ils sont tous ressortis du truc en disant « Putain, c'est impressionnant parce qu'elle est ultra silencieuse. » Et quand on connaît un peu les avions de chasse que sont la PS4 et la PS4 Pro, quand vous avez joué à des petits jeux un petit peu gourmands et qui font décoller la machine, là c'est assez intéressant de voir que la bécane ne fait pas un bruit. A priori c'est aussi le cas chez monsieur Microsoft, mais qui apparemment chauffe encore plus entre guillemets, c'est-à-dire que les exhausts sont moins, les sorties d'air chaud sont moins réparties que sur la PS5, et du coup a priori ça fait un bon petit réchaud à côté de toi, tu peux mettre tes mains au-dessus et puis t'as plus froid, hein. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, vous avez plein de petits liens dans le billet qui accompagne le podcast pour aller regarder tout ça.
Et on passe du côté des apps, mais on reste un peu dans le gaming avec Recalbox.
Ouais, d'habitude, c'est toi qui parles de Recalbox, qui aime bien. Et donc, en fait, c'est juste pour vous dire que la version 7 est sortie et que c'est une version extrêmement revue en profondeur, avec surtout tout un système de mise à jour qui est complètement différent des anciens Recalbox. Alors, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment bien, il y en a parce que c'est relativement simple, etc. Chacun sa chapelle. Je ne juge pas, mais en tout cas, le fait d'avoir enfin un système d'update qui t'oblige pas à tout scratcher à chaque fois, parce que même les updates, genre la 6 à la 6.1, je pense que personne l'a fait, hein. Enfin, tu réinstalles la 6.1 direct, mais tu upgrades pas, en fait, c'est juste chiant. Donc là, maintenant, c'est complètement différent dans l'architecture du truc, et pour faire sa console, son petit setup de rétro gaming, ça reste une solution pas trop chiante. Ils ont enfin compris qu'il fallait mieux gérer tout ce qui était pas de Bluetooth, etc. Donc, à suivre. Moi, je l'ai pas encore testé, mais c'est sorti cette semaine, et je vous ai linké une news sur le sujet, et une deuxième chez Mini Machine. C'est le plus complet que j'ai vu passer en français sur Recalbox 7, ça vous fera un petit peu de lecture.
Et puis on va parler d'un truc dont j'ai entendu parler cette semaine, ça m'a beaucoup fait rigoler, VRAM Drive.
Voilà, le truc qui sert à rien, parce que déjà vous n'avez pas, le hardware pour le faire tourner, et puis même si vous l'aviez, c'est pas à ça que vous allez l'utiliser, mais bon, ça m'a fait marrer qu'un mec se dise, tiens, je vais coder ce truc-là. Donc VRAM Drive, c'est juste un petit truc que vous pouvez aller télécharger sur GitHub sans problème, et qui permet de transformer un bout de sa mémoire vidéo, de sa super nouvelle carte graphique, genre au hasard, la GeForce RTX 3090, que personne ne peut acheter, parce que déjà, un, elle est chère, et deux, il n'y en a pas, qui donc va utiliser les 24 gigas de RAM pour aller faire prendre 15 gigas dans ces 24 gigas pour en faire un RAM drive, donc pour un disque dur virtuel, hein, pour ceux qui connaissent pas la blague. Il y avait évidemment le but du truc, c'était d'installer Crysis dessus.
C'est ce que j'ai vu. Ouais.
Et c'est uniquement pour voir à quelle vitesse on peut aller en ayant en plus le jeu installé sur le truc le plus rapide qui soit disponible actuellement, quoi. Donc évidemment, ça ne sert à rien, c'est juste marrant. Donc je vous ai linké un papier de Tom Zardware qui décortique le truc et qui vous met les liens pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est rigolo dans le sens où ils ont fait des benches et ils se sont aperçus que oui, ça marche vite, hein, ça marche plutôt bien, même en 4K. Crysis 3 va aller très très vite quand il se charge, mais en plus on dépasse les 75 FPS en 4K, ce qui pour ce type de jeu est plutôt impressionnant. Je me rappelle que j'avais dû le faire avec des séquences à 18 FPS à l'époque et j'étais pas en 4K. Les scènes avec la pluie, c'était très compliqué pour ma machine. Donc, très intéressant. ça, voilà, moi j'aime bien les trucs qui servent à rien, qui sont rigolos.
Mais moi aussi.
Voilà, les mecs se sont dit, tiens, j'ai ça, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc rigolo avec? Eh bien, écoutez, ça me rappelle l'époque bidouilleur, ça fait plaisir, sauf que, bon, bah là, dans ce cadre-là, on n'est pas
très bien.
Personne
ne peut jouer avec.
Ouais, merci Nvidia, voilà, là, c'est un peu compliqué, on attendra des trucs un peu plus grand public la prochaine fois.
Allez, on passe du côté de la culture, est-ce que tu connais Roisin Murphy?
Pas du tout, et d'ailleurs je suis hyper content de t'entendre prononcer le nom, parce que quand j'ai vu le truc dans la conduite, j'ai fait « mais comment ça se prononce ton truc là ?»
C'est un nom irlandais, donc c'est une chanteuse irlandaise, c'est l'ancienne moitié de Moloko.
Ah oui, ça je connais. Voilà.
C'était quoi, Sing It Back, leur tube qui avait cartonné partout. Et donc elle fait une carrière solo depuis quelques années, et là en fait elle a sorti un album qui s'appelle Russian Machine, qui est donc une compilation en fait de morceaux sur lesquels elle bosse depuis une dizaine d'années avec un de ses collaborateurs qui s'appelle Richard Barrett, son petit sinon c'est DJ Parrot, qui est pas très connu, mais bon voilà, il travaille avec elle, et bah régulièrement ils se voient, ils font des morceaux, et puis ils les mettent de côté, et puis ils ont décidé là maintenant qu'ils avaient suffisamment de matos pour faire un album, donc ils l'ont sorti. Ça s'appelle Russian Machine, c'est très soul, disco, enfin c'est voilà, c'est du bon groove, c'est des trucs qui mettent de bonne humeur, et bah pour vous le prouver, je propose qu'on écoute un extrait d'un morceau qui s'appelle Incapable. It's horrible weather. It's gone stone cold, and you know we should have got it together. Well, it's nice. It's nice to be wanted. But I want to want you to and never be frightened. Never seen it fall apart. Haven't got a broken dream. Not that into crazy scene. Don't know where I get the strength. And I'll go out of my head. I'm not even out of breath. I could go forever, Incapable, donc sur l'album Roisin Machine de Roisin Murphy. Et juste pour vous signaler, donc l'album est sorti en deux éditions. Il y a une édition qui s'appelle Deluxe, tout simplement, avec des versions étendues. Et je vous conseille très chaudement de prendre cette version-là, parce que les versions étendues sont vraiment à tomber par terre. Et puis on va passer du côté de la tech, avec d'abord des nouvelles du côté de Nvidia.
Ouais, ils arrêtent pas, hein. Quand ils sortent pas des cartes graphiques, on peut pas acheter. Ils sortent des nouvelles tech. Je rappelle qu'ils ont mis à dispo le Nvidia Broadcast, qui est assez utile pour les gens qui veulent faire du stream ou juste du travail remote confortable, puisque c'est un outil qui regroupe trois trucs. Le noise cancelling dont on avait déjà parlé il y a bien longtemps, là, qui marche très très bien et qui utilise la puissance de votre carte graphique justement pour fonctionner. Il y a aussi surtout un nouveau truc qui permet d'avoir un fond vert virtuel. Donc pas besoin de fond vert entre guillemets, hein, c'est pas aussi efficace qu'un fond vert, mais c'est assez intéressant quand les conditions d'éclairage sont bonnes. Donc la webcam va vous détecter, l'IA en fait va vraiment réussir à voir ce qui constitue votre corps et votre visage. Vos jambes, c'est un autre problème, hein. Quand vous vous levez, généralement vous êtes coupé en deux, ça c'est rigolo. Mais ça vous permet justement d'avoir un fond vert pour vos conférences call et planquer toute la misère de votre bureau derrière, les trucs que vous avez pas rangés, les gamins qui passent, tout ça, ça peut être rigolo. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont annoncé une techno qui s'appelle, pour l'instant, enfin par son petit nom de code entre guillemets, qui s'appelle le projet Maxine. Le projet Maxine, c'est en fait un ensemble de techno pour pouvoir envoyer de l'image vidéo, si tu veux, juste toujours avec cette histoire de conférence call. Apparemment, il y a des gens qui sont confinés en ce moment, je sais pas ce qui se passe.
Comprends pas,
assez à mon goût, mais bon, c'est un autre problème. Et du coup, le but, c'est en fait d'analyser votre visage, donc en fait, prendre juste comme une photo, si tu veux, et après, faire à peu près, comme dans les systèmes d'animation qu'on voit avec certains visages 3D, etc. Sauf que là, il suffit d'une webcam pour que ça marche à peu près. Et en fait, il y a une série de points qui vont être analysés sur votre visage. Et en fait, au lieu d'envoyer un stream vidéo quand vous parlez, on n'envoie que les datas des points, en fait. On envoie uniquement un stream d'informations extrêmement léger qui n'a plus rien à voir avec un stream vidéo. Il faut encoder tous les pixels, etc. Là, on envoie juste les points et ça va faire bouger votre photo. C'est pas du tout creepy, d'ailleurs.
Ça va faire bouger. C'est ce que j'allais dire. J'ai vu la démo tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Mais alors, j'imagine si à un moment ça bug et que ça part complètement en sucette et que ça te fait un visage déformé de film d'horreur, ça doit être pour une réunion de boulot, ça le fait moyen, quoi.
C'est clair. Alors donc l'avantage, c'est d'avoir en fait un truc qui soit moins pixelisé, qui a un H264 dégueulasse à bande passante égale ou un petit peu supérieure, et d'avoir un truc propre dans l'écran des autres personnes. Donc après, c'est ça reste perfectible. Hein, c'est vraiment le début de la tech, mais c'est déjà impressionnant. Donc on voit son propre visage bouger alors qu'il n'y a plus de flux vidéo sur le truc. Bon, après, je vous cache pas que je pense que après-demain, il y a des mecs qui vont trouver un moyen de prendre votre photo et de vous faire parler en vidéo alors vous êtes pas là. Ça va être la techno idéale pour pouvoir sécher les conférences, tu vois.
Pour les slackers, ouais.
Ça va, mais tu vois, parce que là, c'est les points, donc t'es obligé d'avoir c'est ton visage qui est vraiment indispensable, mais j'imagine les dérives de cette tech instantanément. Ça va être Black Mirror, le retour. Donc, c'est intéressant, c'est bien, merci beaucoup. Il y a un marché, mais je pense que ça peut déraper assez vite. On se tient au courant, comme on dit. Je vous ai linké un article de Numérama qui explique tout ça.
En tout cas, moi, j'imagine la combinaison de l'algorithme de visage qui bug avec celui du fond vert qui te fait un truc avec le corps coupé en deux, le visage complètement déformé. Je pense qu'il y a des réunions de travail qui vont être assez rigolotes.
Je pense qu'il y a moyen de se marier.
Allez, on va reparler du Wi-Fi. Bah oui, encore un nouveau Wi-Fi, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est le 7 cette fois-ci.
Oui, ça n'arrête pas. Parce qu'en fait, quand on sent un, comment ça se passe, bah, il faut commencer à travailler sur le suivant. Ça prend des années. Donc, je vous rappelle que nous avons le Wi-Fi 6 qui commence tout juste à pointer le bout de son nez. Et ils sont déjà en train d'essayer de drafter donc, les spécifications du 7. Alors, le Wi-Fi 6, je rappelle que c'est celui qui s'appelle le 802.11ax. Alors, avant, on avait du AC, c'est pour ceux qui suivaient. On se retrouve avec des... performance théorique sur le Wi-Fi 7 qui devrait être intéressante puisque les mecs veulent viser en tout cas les 46 gigabits seconde cumulés en fait et ça serait pour 2024, donc c'est quand même après-demain finalement hein, à l'échelle de la tech ça va relativement vite. Ça s'appellera le 802.11be. Je pense que c'est chez toi en fait, ça va être, tu pourras le mettre sur ta plaque. C'est un truc pour vous. On est vraiment sur une techno qui devrait être intéressante mais qui va pas du tout être intégrée avant un grand moment, parce que si vous regardez déjà les devices que vous avez autour de vous qui sont compatibles Wi-Fi 6, il y en a pas des masses. Vous allez voir que du côté des box internet, on en trouve par exemple que chez la dernière box Bouygues qui est évidemment pas la moins chère, je vous confirme. Quand vous êtes sur l'offre Ultimate qu'un certain modérateur de Geekzone vient de prendre d'ailleurs. Il vient de découvrir la fibre, il vient de rentrer dans le 21e siècle, ça lui fait bizarre. Coucou Coldo. Et du coup, on est quand même en droit de pas se précipiter, mais c'est intéressant de savoir que ça va sortir, que c'est en train de bosser, et on suivra ça au fil des ans, en fonction des avancées, parce que de toute façon, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que dès que la norme est draftée, il y a des constructeurs qui prennent les bases de cette norme pour essayer de sortir des produits et mettre un bon vieux sticker Wi-Fi 7 dessus en disant « On est prêt, on est là !» Quand ça va sortir, on sera compatible. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour le Wi-Fi 6. Il y a d'ailleurs des trucs qui sont moyennement compatibles, faut le dire. Ça sera évidemment le cas sur le 7, mais ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien.
Et après le nouveau Wi-Fi, la nouvelle DDR.
Eh oui, la nouvelle prochaine, puisqu'on parle de vraiment techno qu'on n'a pas encore, qu'on peut pas encore acheter. Mais SK Hynix, donc les Coréens viennent de sortir les premières barrettes de DDR5 au monde. Ils sont très contents, donc évidemment on communiqué de presse, tout ça. On est trop les meilleurs. La DDR5, évidemment, pour l'instant, vous pouvez pas la mettre dans vos PC, donc on s'en fout un petit peu. Mais c'est évidemment celle qui va prendre le relais de notre ami la DDR4, parce qu'elle va plus vite, elle consomme moins. Évidemment, tout le monde est très content. Du coup, il faut savoir que la DDR4 plafonne à 3200 Mbps. On est sur la DDR5, sur un truc qui va entre 3200 et 6400. En plus, elle est un peu peu moins gourmande au niveau voltage. Donc voilà, c'est que des avantages a priori.
C'est marrant, ça suit l'évolution des cartes graphiques aussi, j'ai l'impression, hein, qui consomment de moins en moins plus on avance.
Ouais, les processeurs et les CPU de chez côté AMD, pas Intel malheureusement. Mais ouais, donc on est vraiment sur des courbes intéressantes parce que ils sont obligés, puisque plus tu vas vite, plus t'as un dégagement de chaleur. Donc il va falloir faire en sorte de pas trop avoir, si tu restes sur le même voltage, au bout d'un moment t'as un problème. Donc ils sont obligés de descendre pour essayer de ruser aussi, éviter ce genre de problème. Enfin, c'est évidemment plus complexe que ça, mais ça fait partie des choses importantes. Et vous allez voir que normalement, on aura des choses compatibles avec ça qui sont prévues pour 2022 et en 2024, ça devrait être à peu près 40% du marché. Donc, on ne vise pas plus de 10% du marché de la DRAM en 2022 avec la DDR5. Donc, autant vous dire que ça va pas démarrer tout de suite. Mais ils sont prêts, ça va commencer. Il va falloir suivre ça et c'est des bonnes nouvelles quand on aime la tech, mais c'est jamais des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que quand on va vouloir changer de PC dans quelques années, même si ton processeur est compatible avec ta carte mère par exemple, tu t'es souvent obligé de changer l'ensemble puisque en fait toute la technologie a augmenté. C'est ce qui s'est passé quand moi j'ai tout upgradé version AMD, mais de toute façon je changeais de plateforme, donc la question se posait pas. Mais tu t'aperçois que tu ne pourras pas recycler de mémoire, etc., ce qui est logique puisque ça n'arrête pas de progresser.
Et puis on vous en parlait en ouverture de ce podcast, c'était la soirée des grosses annonces du côté d'AMD, donc tu vas nous faire un joli récap. Hein.
Ouais, comme je disais, ils ont réussi à tout torcher en 30 minutes, montre en main, j'étais assez impressionné. Ouais, Lisa Su, la patronne d'AMD, elle était pas là pour rigoler, elle a fait monter sur scène une seule personne, je crois, si je dis pas de bêtises pour les démos. Il y a eu deux personnes différentes en plus d'elle pour la présentation qui a été relativement vite. Ils ont évidemment annoncé la nouvelle gamme de processeurs Ryzen, ils ont montré la chose en action, et puis il y a eu un petit teaser dont on va parler. Donc la nouvelle gamme, comme on s'y attendait, hein, de toute façon, ça avait été leaké un peu dans tous les sens. C'est évidemment la gamme Zen 3 qui commercialement se décline en fait avec un processeur qui va s'appeler Ryzen 5000. Donc toute la gamme, ça va être Ryzen 5900X, ça 5950, 5800X et 5600X. Ça reprend exactement la dénomination de ce qu'on avait en fait avec les 3900, 3950, etc. Donc là, pas de surprise, et on est toujours sur à chaque fois en fonction du chiffre. C'est là où leur truc est pas très compréhensible par les béotiens, c'est que t'es en Ryzen 9, tu te dis 5950, 5900, Ryzen 9 c'est simple, le 5800X c'est un Ryzen 7, tu vois, donc pourquoi on sait pas. Et puis le Ryzen 5 c'est un 5600X en fait, donc le faut pas vous fier, le Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 machin qui va avant le processeur n'a pas rien à voir avec le nom en fait lui-même du CPU. C'est un petit peu perturbant pour les gens qui débarquent. Donc qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé en fait que ça irait jusqu'à 4,8 GHz en boost sur le 5900X, qui est vraiment le flagship raisonnable on va dire de la nouvelle gamme. Ils ont changé, ils avaient une mémoire cache en fait à l'intérieur qui était en deux blocs de 16 mégs, et puis ils se sont rendu compte que c'était un petit peu stupide, donc ils sont passés à un seul bloc de 32 mégs, ce qui fait qu'en fait ça fait exploser les performances avec évidemment les nouvelles modifications sur l'architecture, mais ça fait exploser les perfs, ce qu'on appelle instructions par cycle, et qui sont hyper importantes pour voir les performances en single core, donc qui était le dernier truc où de temps en temps les gens se plaignaient, oui mais sur un processeur Intel, blablabla, ça va plus vite en single core, pour les jeux c'est mieux. La différence, elle était déjà peanuts sur la version d'avant, mais là on prend 19% en plus sur cette génération-là, c'est énorme en fait, pour un CPU où on peut mettre dans une carte mère actuelle, on a un Ryzen de la gamme de la génération 2, tu vois. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis ils ont, attention, tous les trucs que je suis en train d'annoncer, c'est des annonces AMD, hein. On attend les bench évidemment, indépendants, mais bon, ils vont pas se risquer à vous dire que c'est 19% si c'était 2, tu vois. Les mecs, ils veulent pas mourir non plus, ils veulent pas se faire allumer par toute la presse de la planète. Ils ont pris évidemment comme exemple des trucs qui sont relativement gentils avec eux, avec Shadow of the Tomb Raider par exemple, qui est 28% plus rapide par rapport au 3900X juste en changeant de CPU. C'est énorme, encore une fois, le gain de CPU à CPU sur une génération comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et ça va pas faire plaisir à Intel du coup, qui a déjà été mal, mais là se prend une énorme tarte dans la tronche. La moyenne en fait de gain sur les jeux qu'ils ont montré, c'était 26%, donc pareil, hein, faudra confirmer ça avec des tests indépendants, mais c'est vraiment
C'est beaucoup, hein.
Moi je suis vraiment assez bluffé. Alors t'as des trucs qui sont complètement qui font exploser les datas, parce que t'as j'ai vu passer sur leur benchmark 50% sur un League of Legends. Voilà, bravo. Et puis il y a des jeux où t'es sur un plus 2, plus 3, plus 6%, tu vois. Donc faudra aussi rester raisonnable et bien gérer ses attentes en fonction des jeux qui vous intéressent. Et sinon, sur le reste, on n'est pas tellement dépaysé, puisque donc le 5900X, c'est un processeur avec 12 cœurs et 24 threads, exactement comme le 3900X et le 3900XT. Donc on est encore une fois sur un truc avec 70 mégas de cache avec le L2 quand on additionne L2, les caches de niveau 2 et les caches de niveau 3, ce qui donne en fait ce gain de perf aussi, ça c'est hyper important le cache pour les genres de conneries, le jeu vidéo par exemple. Donc c'est vraiment, c'était le but avec cette génération-là, c'était vraiment de rattraper, d'exploser Intel sur les performances single cœur, enfin avec un seul cœur, parce que généralement, j'ai pas précisé, mais les jeux vidéo exploitent relativement mal, même si c'est de moins en moins vrai, le multithreading, donc exploitent pas forcément quand on a 12 cœurs avec son CPU, bah ils sont pas exploités par votre jeu. Ce qui nous arrange, puisqu'on l'utilise aussi pour streamer, par exemple, en même temps,
tout à fait, ouais.
Discord va en prendre si vous êtes sur Discord en même temps, etc., etc. Donc on a besoin de cette puissance et de ce multithreading qui est maintenant le truc à la mode et qui dans toutes les gammes de CPU, quels que soient les devices que vous utilisez, c'est l'architecture, c'est ça en fait maintenant. Le parallélisme, c'est le nerf de la guerre. Et au niveau de la gamme, donc on se retrouve, alors je vais annoncer les tarifs parce qu'on les a, mais on les a en dollars. Alors attention, c'est du prix hors taxe. Faudra voir comment ça va se convertir en euros avec nos taxes adorées. Donc on est sur du Ryzen 9 5900X et du $549. Donc c'est un peu plus cher que le 3900 à sa sortie, le 3900X, mais ça c'est logique vu où il va se positionner par rapport au reste du marché. Le Ryzen 7 5800X, c'est $449, et il y a 8 cœurs, donc exactement comme le 3800 à l'époque. Et le Ryzen 5 5600X, c'est $299, et là ça va faire mal à la concurrence, parce qu'il y a peut-être que 6 cœurs, mais ça suffit largement pour plein de gens, et on est vraiment sur un tarif hyper agressif pour vu les perfs annoncé quoi. Et puis si vous avez vraiment trop d'argent, ils ont quand même refait le Ryzen 9 5950X qui est en fait un 5900 vraiment boosté avec 16 cœurs, 32 threads, du coup ça monte jusqu'à 4,9 GHz. Alors on n'est pas au 5, tu vois, je pense qu'ils ont tout donné pour essayer d'être à 5 parce que sur une plaquette marketing c'est la classe, tu vois.
Oui, c'est clair,
mais ils les ont pas eu. 72 mégas de cache et lui il va coûter $800, donc bon voilà, c'est un peu plus cher que le reste, mais si vous en avez vraiment les moyens ou besoin, j'ai envie, et voilà, il existe, il est là. Mais comme on n'atteint pas les 5 GHz et vu ce qui s'était passé avec la génération précédente, je ne serais pas étonné que l'année prochaine on ait aussi une petite révision dans 5900XT, 5950XT, comme exactement la même chose qui s'est passé avec les 3900, où là ils vont peut-être aller gratter les 5 GHz cette fois, et ça sera bien plus, ça va, tu vois, ça sera un chiffre rond sur les plaquettes marketing, ça va être
ça, sera joli.
Ça ouais. sera joli. Tout ça est dispo le 5 novembre, donc chez nous, j'espère que ça sera plus dispo que les cartes Nvidia, hein, Nvidia. coucou. Et ils ont teasé en même temps l'annonce du 28 octobre qui va tourner autour de la Radeon RX 6000, donc le nom de code de ces cartes graphiques, c'était Big Navy. C'est la communauté qui avait trouvé le nom, a priori. J'avais oublié que c'était ça, mais Lisa, on a reparlé sur scène, sacré Lisa. Et on se retrouve avec bah, du coup, trois secondes de vidéo, pardon, à la fin de leur présentation pour montrer en action quelques images de Borderlands 3 en 4K avec le couple Ryzen et RX 6000. Donc évidemment il y a pas de bench, il y a rien, donc ça ne veut rien dire, on s'en fout en fait, tu vois. J'ai jamais compris l'intérêt de ces trucs là. Regardez, ça tourne. Bah ouais, j'espère bien, sinon vous êtes mal quand même. Donc bon, le résultat est intéressant parce que bon bah ils sont là. Moi la vidéo est très courte et je sais pas, mais j'ai trouvé que ça ramait, mais du coup voilà, tu vois, il y a des trucs, tu te dis mais c'était peut-être pas une bonne idée de conclure sur ça. Bon bah, je suis pas très très inquiet. Ils ont ouvert la conf d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ils ont ouvert la conf en disant à quel point ils étaient fiers d'être les mecs qui sont derrière et la PS5 et la Xbox Series X.
Tu m'étonnes.
Parce que, enfin, toutes les nouvelles Xbox, soit Series X ou pas. Donc voilà, c'est un peu la classe et c'est encore un petit clou dans le pied d'Intel qui, décidément, n'y arrive pas en ce moment. Voilà, donc c'était vraiment une conférence 30 minutes pour expliquer salut, c'est nous les boss, et puis là on est encore plus les boss. J'ai trouvé ça assez rigolo. Alors évidemment, je vous ai épargné, on est en podcast, hein, mais ils ont des benchs comparatifs avec les flagships de chez Intel, etc. Ça se passe pas très bien pour Intel, hein, je ne vous le cache pas. Donc on va attendre les tests gentiment, comme le truc sur le 5 novembre, je pense que on aura fin octobre déjà des tests sur les sites de hardware qui ont leurs entrées chez AMD, et le résultat devrait être assez intéressant. On va suivre tout ça évidemment.
Et c'est la fin de ce 149e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres. Je rappelle d'ailleurs l'adresse du Patreon, hein, patreon.com/geekzonefr. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, toi?
Je vais récupérer, je suis explosé. J'ai eu beaucoup de mal à vous expliquer. J'espère que j'étais clair, hein, les gens. Je suis désolé.
Non,
j'étais vraiment fatigué. Et puis, il fait moche.
Ah oui, ça, c'est triste.
Donc, voilà, je vais hiberner, je pense, ce week-end. Ça me paraît pas mal. Je pense que ça va être mon plan.
Eh ben, bonne hibernation, alors. À la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.